L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme Ardèche. L'Europe du côté de chez nous. Une émission qui présente ce que fait l'Europe sur nos territoires, en donnant la parole aux femmes et aux hommes de Drôme et d'Ardèche, engagés sur des projets en lien avec l'Europe.
Cette émission vous est présentée par Ardiana Tosca, enseignante spécialisée sur les questions européennes, et Anna Gasquet, responsable du Centre d'information Europe Direct, Drôme Ardèche.
Bonjour Anna.
Bonjour Ardiana.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue à cette 8e émission de l'Europe du côté de chez nous.
Oui.
De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Anna?
Alors aujourd'hui, étant donné qu'on est de nouveau confinés, on s'est dit c'est l'occasion justement, au contraire, de parler de voyage, de mobilité en cette période confinée. Et puis de se donner un petit peu des nouveaux horizons.
Ah, on a un très beau pari. Donc, on va rester mobile, même en période confinée, alors.
Exactement.
Qui sont nos invités qui vont nous parler, justement, de ce beau défi à relever, se déplacer, rester mobile, même en temps de confinement?
Alors, on va avoir deux invités. Romain, un habitant de Bourg-lès-Valence, qui va nous parler de toutes ses expériences de voyage avec l'Europe, avec les langues. Et puis, on aura également Laura, qui étudie à Valence, mais qui est originaire de Bretagne.
Très bien, accueillons-les alors.
Bonjour Romain, tu es au téléphone, tu m'entends bien?
Oui, je vous entends très bien, bonjour. Super. Et merci pour l'invitation.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Romain, voilà, tu habites, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu habites à Bourg-lès-Valence et tu es donc traducteur et enseignant en italien et allemand. Et tu participes depuis de très nombreuses années aux activités du comité de jumelage. D'ailleurs, tu es devenu récemment le vice-président du jumelage de Valence. Et puis, tu as également eu de nombreuses expériences de mobilité en Europe, en Allemagne en particulier, mais aussi dans d'autres pays. Aujourd'hui, on voulait te donner la parole parce qu'on sait qu'il y a pas mal de choses dont tu peux nous parler. Tout d'abord, peut-être, j'ai dit en début que tu es donc enseignant et traducteur, c'est bien cela?
Oui, tout à fait. C'est une longue expérience, effectivement. J'ai commencé l'enseignement il y a 6 ans. Je suis diplômé d'un master de traduction interprétariat de l'Académie de Grenoble et j'enseigne notamment à l'université en formation professionnelle.
Super. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Est-ce que ça vient d'où, ce goût des langues?
Le goût des langues, je l'ai eu justement à travers un premier échange quand j'étais adolescent avec le comité de jumelage de Valence. J'ai participé quand j'étais en 4e à un échange avec notre ville jumelle Bibra. Et en fait, ça a été un vrai coup de cœur, une vraie révélation. Et j'ai été plutôt un adolescent qui se cherchait, qui savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie. Et là, j'ai dit c'est bon. Je veux faire ça.
Ouais, c'est vrai qu'on connaît des fois pas assez en fait ces comités de jumelage et c'est vrai que c'est une belle opportunité pour les jeunes, pour les familles de voyager, de rencontrer d'autres personnes et justement d'ouvrir de nouveaux horizons ou carrément des vocations comme la tienne quoi.
On est vraiment à la base en fait quand on parle d'un comité de jumelage, on est au niveau du citoyen parce qu'on parle des villes. On est à l'échelon communal, donc on parle vraiment aux gens, nos voisins, les gens qui habitent dans nos quartiers, et on n'est pas du tout dans... Parce que parfois, des projets comme Erasmus, c'est parfois très académique. Là, par contre, le jumelage, on s'adresse vraiment aux habitants de notre commune. Donc, c'est très, très concret. C'est vraiment une porte d'entrée vers l'Europe et la mobilité.
Oui. Et donc, toi, tu es habitant de Bourg-lès-Valence, mais par contre, tu es impliqué dans l'association du jumelage de Valence. C'est uniquement, en fait, le jumelage de Valence, c'est réservé aux habitants de Valence uniquement ou comment ça fonctionne?
Alors, en fait, déjà, il n'y a pas les mêmes villes jumelles entre Valence et Bourg-lès-Valence. Je suis aussi adhérent du comité de jumelage de Bourg-lès-Valence.
D'accord. On peut être dans
plusieurs jumelages. Hein, il n'y a pas de problème. Ce sont des associations. Après, c'est vrai que ça s'adresse plutôt aux habitants de sa propre commune. Mais par exemple, Bourg-lès-Valence n'a pas actuellement de ville jumelle italienne. Donc pour les échanges, les Bourquins qui veulent participer à des échanges avec l'Italie, ils peuvent participer au niveau de Valence.
Oui.
De l'autre côté, par exemple, Portes-les-Valences aussi n'a pas forcément beaucoup de villes jumelles, donc ils peuvent, les Portois peuvent participer aux échanges de Valence. On va dire qu'il faut que ça reste proche au niveau de l'agglo.
D'accord, mais c'est pas forcément uniquement réservé à des habitants d'une certaine commune, c'est un petit peu flexible.
Oui, moi je suis certes bourquin, mais j'ai fait une grande partie de ma scolarité et notamment mes études sur Valence.
Oui.
Donc après, j'étais en lien avec le comité de jumelage de Valence.
D'accord. Et vu qu'aujourd'hui on parle de l'Europe, dans cette émission, pour toi, comment, parce qu'on parle de langue, on a parlé de voyage, donc de villes jumelées, d'expériences de mobilité. Mais pour toi, quel est le lien avec l'Europe dans tout cela? Comment tu le vois? C'est quoi ton lien, toi?
Alors, vaste question. je ne sais pas par où commencer, mais le lien, c'est que quand on découvre une nouvelle culture, un nouveau pays, quand c'est un pays européen, de l'Union européenne, on se rend compte qu'on partage un peu plus que d'être citoyen du monde, parce qu'en fait, on partage souvent la même monnaie. On partage des institutions communes et en fait, on voit bien qu'on a une forme de destin commun aussi, que les décisions prises en France ont aussi une influence dans les autres pays et qu'on essaye d'aller dans la même direction.
Oui, d'accord. Et toi, ton engagement sur justement cette Europe, ça s'exprime comment pour toi?
Pour moi, l'Europe, c'est tellement une évidence que c'est dans toutes mes actions en fait. Que ça soit dans mon travail, le fait d'enseigner les langues, eh bien, c'est une ouverture sur l'Europe. Le fait de traduire, c'est permettre la communication entre les langues au niveau européen. Surtout que mes langues, c'est l'anglais, l'allemand et l'italien. Donc, c'est vraiment les langues très parlées dans l'Union européenne.
Mmh.
Et ensuite, au niveau associatif, le jumelage, c'est clairement une association pro-européenne. Mais ensuite, dans les autres activités que j'ai pu avoir, que ce soit pendant mes études ou même jusqu'à maintenant, par exemple, j'ai été jeune ambassadeur de l'Office franco-allemand pour la jeunesse.
Ah oui, d'accord.
Donc, là aussi, on est dans une organisation très pro-européenne.
Et ça veut dire quoi être jeune ambassadeur de l'OFAGE, l'Organisation franco-allemande de la jeunesse?
L'objectif, c'est de représenter l'OFAGE au niveau local. Parce que les institutions comme l'OFAGE, ce sont des institutions nationales, même binationales, et souvent, ça reste dans les capitales.
D'accord.
Et on a du mal à faire le dernier kilomètre jusque dans les territoires.
Mmh.
Et l'objectif des jeunes ambassadeurs, c'est d'être répartis justement sur les régions, dans les départements, et de représenter localement auprès des associations, auprès des communes, de pouvoir leur dire, là, vous avez des opportunités de financement de vos échanges, de vos projets, et vous pouvez profiter de tels programmes d'échange.
D'accord.
Notamment, ce qu'on a réussi à bien faire, c'est le programme Brigitte Sauzet, qui permettait à des collégiens et des lycéens de passer 3 mois en Allemagne.
D'accord. Donc là, vous, avec toi, en fait, tu aides comme ça les personnes à se renseigner sur les possibilités que offre l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, pour financer tel ou tel projet. C'est bien cela?
C'est cela. Et justement, ça fait une boucle parce que souvent, en fait, on faisait passer les projets à travers le comité de jumelage. Et comme ça, les familles qu'on trouvait, qui disaient qu'elles voulaient faire participer leurs enfants à un échange Brigitte Sauzet, on leur trouvait une famille de partenaires à Bibra.
Bon, écoute, merci beaucoup pour tous ton témoignage, l'expérience que tu as tirée de ces contacts avec d'autres pays grâce au jumelage, grâce à l'Office franco-allemand de la jeunesse, dans le cadre scolaire ou dans ta propre initiative. On t'entend passionné.
C'est une vraie passion et c'est mon quotidien en fait. L'Europe, je baigne dedans du matin au soir et c'est un vrai bonheur. Et j'ai envie de dire aux gens de vraiment essayer de prendre contact avec leur comité de jumelage ou avec des associations pro-européennes comme les Jeunes Européens ou Europe Direct, d'essayer la mobilité parce qu'en fait on n'imagine pas tout ce qu'on peut recevoir de ce genre d'échange. C'est tellement énorme tout ce qu'on découvre, l'ouverture d'esprit culturel quand on découvre notre pays, notre culture. Il faut vraiment essayer. Souvent, on entend que les gens, ils osent pas parce qu'ils ont peur au niveau linguistique, de pas être assez bon, de pas bien parler, etc. Uh-huh. Au final, on parle de personnes, d'humains. Ouais. Et la langue, le niveau linguistique, finalement, importe peu.
Ouais. Mais quand même, toi, grâce à ta expérience, tu es devenu largement bilingue. Donc, ça, c'est extrêmement efficace aussi, quoi.
Ah bah, ça, c'est sûr qu'après, on peut se perfectionner et se spécialiser dans les langues. Ouais. Après, c'est un choix. Mais pour participer à un échange, il n'y a pas besoin d'être traducteur.
Ouais. On peut commencer par quelques mots et puis déjà les gestes. Ça marche toujours.
On voit ça notamment au niveau des enfants. Ouais. Les enfants, quand ils sont petits, ils ont notamment les moins de 10 ans, ils parlent pas du tout l'autre langue et pourtant, ils ont aucun problème pour jouer et s'amuser et se comprendre avec les enfants d'autres pays.
Oui, exactement. Et aujourd'hui, tu nous as suggéré pour notre programmation musicale de cette émission deux morceaux. Tu veux bien nous en parler juste avant qu'on les écoute. Alors d'abord, c'est Mark Forster avec Cœur.
Oui, alors Mark Forster, c'est le chanteur actuel en Allemagne qu'on entend partout. Il a gagné une émission du style The Voice et depuis, il est même jury de cette émission.
D'accord.
Et donc, chacun de ses titres est un vrai carton en Allemagne, un peu comme Vianney chez nous. C'est un peu similaire sa carrière.
D'accord. Donc on écoutera ça juste après ton interview.
Pop allemande moderne.
D'accord. Et après l'autre morceau qu'on a choisi, Herbert Grönemeyer, tu veux nous en dire un mot? C'est complètement différent, je crois là. Hein, on est dans une autre catégorie.
Là, on est dans une catégorie que les Allemands appellent le Schlager, qui n'existe pas vraiment en France. On n'a pas d'équivalent.
De cette expression.
Mais on va dire que c'est de la chanson traditionnelle classique allemande. Un peu
mielleuse, non? Ce ne serait pas mielleux, le Schlager? On ne pourrait pas dire mielleux?
Oui, un petit peu. Il y a une chanteuse française de Schlager en Allemagne qui fonctionne bien, c'est Mireille Mathieu. Donc
ah,
je ne sais pas
d'accord.
Si ça donne, ça donne le ton.
D'accord, okay.
Qui chante d'ailleurs beaucoup en allemand, Mireille Mathieu, si ça intéresse les auditeurs et les auditrices.
D'accord.
Et donc Herbert Grönemeyer, bon, il est un peu plus que du Schlager, parce que c'est vraiment un chanteur qui, depuis les années 70, a eu beaucoup, beaucoup de succès. A eu aussi une vie un peu difficile, notamment avec son épouse qui est décédée, et où il en a fait une chanson qui a beaucoup ému les Allemands.
Ouais. Et là, ce morceau qu'on a choisi, c'est Bochum.
Oui. Donc là, c'est plus une chanson sur le folklore allemand, sur cette ville Bochum de la région industrielle de la Ruhr,
ouais.
Une région qui était un peu comme le nord de la France pour nous, une région minière très importante, et qui aujourd'hui est en crise de reconversion. Et
ouais.
Donc cette histoire parle de tout ce passé et cet avenir un peu incertain pour cette région.
D'accord. Ben écoute, merci beaucoup encore, Romain, pour ton témoignage et puis pour ces chouettes morceaux. On va les passer maintenant. Merci encore, une prochaine fois.
Merci à vous pour l'invitation et au plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Warum machst du dir den Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Dein Name aus allen Boxen, der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus, durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast da noch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung. Ich seh schon, wie es blitzt. Lass es mich kurz sehen. Hab fast vergessen, wie das ist. mit Lächeln im Gesicht. Wichtig, seh's für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich.
Maintenant, place à notre deuxième invité. Il s'agit de Laura. Qui...
Oui, en effet.
Anna, tu vas nous la présenter.
Exactement. Alors, Laura est étudiante à l'IAE de Valence et habite en Bretagne et en ce moment est confinée depuis chez elle en Bretagne. Et on l'a appelée pour avoir son témoignage. Bonjour, Laura.
Bonjour.
Merci d'être ici avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Donc voilà, que, comme je l'annonçais, tu es venue étudier à Valence. Qu'est-ce que tu fais en fait en ce moment ?
Alors du coup, je suis en première année de master en finance et voilà.
Donc à l'Institut d'administration
des entreprises, c'est ça, hein,
c'est
de Valence.
Ça, exactement.
C'est bien ça. Et on voulait te demander de nous parler aujourd'hui parce que tu as eu l'occasion dans le cadre de tes études et hors aussi des études de voyager. Donc je sais que tu es allé pas assez loin en Chine, en Australie. En Chine, c'était dans le cadre des études, c'est bien ça?
Alors oui, en Chine, c'était dans le cadre des études. C'était quand j'étais à l'école de commerce de Rennes pour mes trois premières années. Et du coup, en troisième année, on avait, c'était prévu en fait dans le cursus scolaire de faire un échange dans une université partenaire. Et du coup, je suis partie toute la troisième année en Chine dans le cadre de cet échange. Voilà.
Waouh, sacrée expérience, j'imagine.
Ouais. C'était assez marquant et une expérience pleine de rebondissements et très, très enrichissant.
Oui, puis une chance finalement d'y aller avant cette période un peu troublée qu'on traverse maintenant.
Oui, c'est vrai qu'en plus à cette période, on ne pouvait pas imaginer tout ce qui allait se passer.
Oui.
Donc c'était vraiment une chance, ouais.
Et puis ensuite, tu as continué les voyages. C'est peut-être ça qui t'a donné envie de continuer vers l'Australie, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Bah, du coup, après avoir validé mon bac plus 3, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et du coup de faire le fameux Working Holiday Visa en Australie. Voilà, dans la foulée, en fait, je suis rentrée 4 mois en France et j'ai enchaîné direct, voilà.
Et tu es restée en Australie combien de temps ?
Je suis restée 8 mois.
8 mois, d'accord, waouh. Et c'est quoi, en fait ? Tu peux nous en dire plus de ce Working Holiday Visa ?
Du coup, c'est un accord, entre guillemets, entre la France et l'Australie, comme beaucoup d'autres pays, d'ailleurs. Et ça permet aux jeunes de 18 à 35 ans, il me semble, de voyager et de pouvoir travailler aussi en Australie pour financer le voyage, en fait.
D'accord, donc c'est ce que tu as fait. Tu travaillais également là-bas ?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que tu as pu faire ?
C'était beaucoup dans les bars et aussi beaucoup les boulots en ferme, parce que c'est énormément demandé pour tous les backpackers, en fait. Et ça permet aussi de travailler... Enfin, les travaux en ferme permettent aussi de détendre le visa une fois qu'on a acquis un certain nombre de jours
d'accord.
de travail.
C'est bien vu, quoi, en fait. C'est,
oui.
C'est un point positif,
oui,
pour obtenir le visa, l'extension, oui, du visa. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu en as retiré de ces deux expériences assez différentes, j'imagine, une en Chine dans le cadre d'un stage pro, mais pour les études, et l'autre plutôt en mode voyage baroudeur, quoi, un petit peu plus en Australie, c'est ça.
Franchement, si je devais retenir qu'une seule qu'une seule chose, c'est vraiment les rencontres, parce qu'on rencontre vraiment des personnes du monde entier et puis aussi de tout horizon différent, et c'est très très enrichissant. Même les Français que j'ai pu rencontrer là-bas, je pense qu'en restant en France, je les aurais peut-être jamais rencontrés, parce qu'on fait pas du tout la même chose et on n'est pas forcément amené à se voir, en fait.
À se croiser, ouais.
Ouais.
Et ce retour, d'ailleurs, ces retours et le retour à la vie française, hein, maintenant, ça se passe comment pour toi? C'est facile, ou alors tu as envie de repartir, au contraire, tu es très content d'être un peu plus, disons, dans tes pénates?
Alors, quand on rentre après un long voyage, c'est vrai que la première semaine, on est content parce qu'on voit nos proches, forcément. Mais après, il y a quand même un petit temps de réadaptation et de nostalgie, on va dire. C'est un peu difficile, mais après, on se réhabitue très, très vite. Et puis après, même si on est bien en France, c'est vrai que ça donne quand même envie de repartir.
Ouais, et c'est quoi tes projets, alors, de repartir?
Dans l'idéal, ça serait de faire mes stages à l'étranger, donc peut-être à partir d'avril, en fonction de la situation. Donc après, voilà, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que ça serait l'idéal.
Ouais. Et là, les prochaines destinations pour toi, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te plairait?
Je pense... pourquoi pas découvrir plus l'Europe, justement, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à vouloir partir loin pour être dépaysée. Mmh. Et je me rends compte que peu importe où on va, on est toujours dépaysée parce que c'est toujours différent. Et pourquoi pas tenter plus d'expérience, au moins une longue expérience en Europe.
D'accord. Ok, bah super, ça paraît un chouette projet. Mais écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était très gentil de se connecter depuis la Bretagne par téléphone.
Merci beaucoup, merci à vous.
Avec plaisir, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Und der hat seines Licht bei der Nacht, und der hat seines Licht bei der Nacht schon an, bezählt schon an. Wo die Sonne verstand, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, tief im Westen. Du bist kein Thank you.
Voilà, donc c'était Herbert Grönemeyer avec Bochum. Donc vous avez entendu, hein, c'est y a
de très belles chansons.
Voilà, il y a de la puissance, il y a de la, il y a du coffre. Il y avait tous les chœurs des anciens miniers de la Ruhr qui accompagnaient, et puis une grande foule. C'est un monument de la pop allemande et qui nous parlait ici de Bochum, donc une ville, une ancienne ville minière sinistrée de cette zone-là. Un morceau en l'honneur de cette ville.
Bien, et après ces chansons, qui étaient vraiment un très bon choix, je l'avoue, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les activités du Centre Europe Direct pour les semaines à venir ?
Alors, pour donc, l'agenda de Europe Direct de Romardèche pour le mois de novembre, le mois de décembre, alors, tout d'abord, une première actualité, c'est le grand forum de la mobilité pour les jeunes, le forum Jeunesse en Mouvement.
Alors, comment va se passer, voilà. Puisque, voilà, en c'est période de confinement, oui.
Donc, il est prévu le jeudi 3 décembre et nous avons décidé donc, de maintenir ce jour-là un événement, mais dématérialisé, donc quelque chose qu'on proposera en ligne, et de reporter le forum en présentiel à début 2021. Donc, le forum d'information sur la mobilité des jeunes, le 3 décembre, le jeudi 3 décembre, aura quand même lieu, mais en format uniquement dématérialisé. Et avec Radio BLV, on va vous proposer plusieurs rendez-vous thématiques autour de différentes questions qui touchent à la mobilité des jeunes. Comment partir étudier, comment partir travailler, comment partir faire du volontariat, mais aussi concernant les projets de jeunes, pour monter son projet et trouver une bourse pour faire un projet de solidarité, par exemple. Donc, tout cela, nous allons vous le proposer non seulement sur Radio BLV, avec donc, notre partenaire, mais aussi en direct, diffusé sur YouTube. Donc, il y aura moyen de nous suivre de différentes manières pour toute personne et également les individus, les familles, mais aussi pour les enseignants qui, en classe, souhaiteraient suivre ça avec leurs élèves. Ce sera possible de le visionner ou de l'écouter en direct.
Parfait. Donc, Forum Jeunesse et Mouvement en version dématérialisée le jeudi 3 décembre.
Exactement.
Et après ce forum, qu'est-ce qu'il y a encore comme activité ?
Voilà. Donc, pendant le mois de novembre et décembre, on vous propose des cycles, des ateliers gratuits. Donc, ils auront lieu là aussi en ligne. Donc, à cause des restrictions et du confinement, on va préférer maintenant vous les proposer en ligne. Donc, ce sera sur comment la coopération européenne peut être au service de vos projets et en particulier quelles possibilités vous avez de financement. Donc ça, c'est à destination des acteurs de l'innovation sociale ou de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Et s'ils ont un projet de développement, un projet d'innovation, s'ils souhaitent monter un projet de coopération européenne, comment ils peuvent utiliser ces outils de financement européens au service de ces projets innovants, de ces envies de coopération. On va vous donner des outils méthodologiques pour monter vos projets, puis aussi des possibilités d'identifier les financements qui sont accessibles, qui seraient adaptés à vos projets. Donc là, on a toute une série de sessions planifiées. Les prochaines sont donc le 16 novembre, le 23 novembre, on en a le 26 novembre, le 4 décembre, le 8 décembre, le 17 décembre. Donc on en a un certain nombre et vous pourrez retrouver toutes ces infos sur notre site mde-lyon.eu ou sur notre page Facebook également. Donc voilà, toutes les informations seront là pour s'inscrire.
Et encore en formation, est-ce que vous avez une autre session de formation par rapport à un autre thème ?
Exactement, là donc sur novembre et décembre, on va continuer sur les formations en visio et en présentiel. Alors là sur on va être sur les outils qui peuvent aider à parler de mobilité et d'Europe auprès des jeunes. Donc là, c'est des formations qui s'adressent plutôt aux acteurs jeunesse, aux établissements scolaires, aux enseignants, aux documentalistes qui souhaiteraient parler de mobilité européenne, de citoyenneté européenne auprès de leur public, mais également monter des projets. Donc ce sera la possibilité de découvrir les outils de financement européen pour les projets concernant l'Europe, la mobilité, et également les outils de pédagogiques pour pouvoir en parler avec différents publics, des jeux, des quiz, des animations.
Est-ce qu'il y a des dates de prévues pour ces formations ?
Tout à fait. On a donc 3 dates. Ce sera le 20 novembre à Davézieux, juste à côté d'Annonay, de 13h30 à 17h30. Le 9 décembre, le mercredi 9 décembre, à Aubenas. Donc là, ce sera de 13h30 à 17h30 aussi. Et enfin, le 17 décembre, à Privas, le matin, le jeudi 17 décembre, de 9h à 13h.
De toute façon, ce sont des dates que vous allez mettre en ligne sur votre page Facebook et qui seront, voilà, tous ceux qui le souhaitent peuvent être informés également sur la page Facebook du Centre Europe Direct Drôme-Ardèche.
Voilà, la page Facebook, le site web, bien sûr, ce sont les outils sur lesquels vous pouvez retrouver toutes ces informations-là.
Bien, merci Anna.
Merci à toi.
On va passer justement à notre rubrique en direct de Bruxelles.
En direct de Bruxelles.
Alors voilà, en direct de Bruxelles, qu'as-tu à nous raconter, Ardiana, sur cette actualité bruxelloise européenne ?
Eh bien justement, cette actualité bruxelloise est marquée par le confinement et tout ce qui va avec, le couvre-feu et les restrictions. Normalement, les pays européens qui ont tiré des leçons de ce manque de coordination pour la première vague. Et maintenant, tous les États membres tentent cette fois-ci de mutualiser leurs efforts avec l'appui des sessions des institutions européennes. Le mot d'ordre du Conseil européen et celui des ministres européens a été celui de mieux coordonner les réponses face à la pandémie. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen a également annoncé, la présidente de la Commission européenne, annoncé que la Commission mobiliserait 220 millions d'euros pour financer des transferts de patients atteints du Covid-19 d'un pays à l'autre afin de soulager les hôpitaux surchargés.
D'accord, donc on voit là, disons ça, c'est une action concrète de comment la solidarité européenne
voilà,
se
met
peut
en place
entre les pays en matière de santé.
Exactement. Et aussi, il y a une autre démarche dans ce sens. Il y a la recommandation de l'Union européenne qui prévoit de répartir les États en 3 catégories, vert, orange et rouge, en fonction de leur situation sanitaire. Et pour suivre l'évolution dans les différentes zones, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, une agence européenne basée à Stockholm, est chargée de mettre à chaque jour, chaque semaine, une carte synthétisant les résultats des indicateurs qui sont pris en compte pour la circulation du virus.
D'accord, donc ça permet quand même plus de lisibilité tout ça.
Exactement, mais après, personne ne doit se voir refuser en principe l'entrée sur le territoire de notre État européen, sauf en cas de confinement général de l'État en question.
Oui, donc on n'est pas du tout sur une situation de fermeture des frontières comme on a eu sur la première phase du confinement.
Tout à fait. Non, le tableau, il se ressemble un peu, mais il est aussi différent parce qu'il y a des États quand même qui ont choisi un faible niveau de restrictions et d'autres qui ont choisi des restrictions plus sévères, accompagnées aussi d'un couvre-feu. 6 pays européens ont imposé un couvre-feu à leur population, l'Italie, la Slovénie et l'Espagne. Tandis que concernant l'Allemagne, elle a opté pour un confinement partiel pendant lequel les bars, les restaurants, les salles de sport et les institutions culturelles doivent être fermées et les déplacements à l'intérieur du pays sont interdits. Les magasins et les écoles restent cependant ouverts. Mmh. Tandis que la Bulgarie, la Croatie ont choisi un faible niveau de restriction. Il y a aussi le problème des frontières.
Ah oui ? Et du coup, où peut-on se déplacer depuis la France ?
Justement, à l'heure actuelle, 8 pays de l'Union européenne sont néanmoins accessibles aux voyageurs venant de la France, mais sans condition. Il s'agit de l'Espagne, le Luxembourg, la Croatie, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la Bulgarie et la Suède.
D'accord. Pour les autres, par contre, il faut...
Il y a des conditions. Tout
D'accord.
à fait. Certains exigent de justifier d'un test RT-PCR, d'autres exigent une mise à l'isolement et d'autres exigent à la fois et le test et une période d'isolement obligatoire. On a appris pour les étudiants, justement, comment faire quand on est étudiant dans un cas de pays de l'Union européenne partant de Covid-19. Pour la République tchèque, par exemple, si le passage, la situation en effet est différente d'un pays à l'autre, la République tchèque, si le passage de la frontière se fait sans restriction depuis la France, un test PCR est à réaliser avant de commencer ses études.
D'accord.
Pour l'Italie, les étudiants frontaliers sont à l'inverse exemptés de tests. Le Danemark, la Finlande, être étudiant dans une université de ces pays est considéré comme un motif légitime pour s'y rendre. Donc il n'y a pas besoin de passer des tests ou bien voilà, d'avoir des problèmes pour entrer dans ces pays. De toute façon, des formulaires relatifs soit au lieu de séjour, soit à l'état de santé sont généralement disponibles en ligne et ça concerne plusieurs pays, la Belgique, la Croatie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, l'Autriche et la Roumanie.
D'accord. Pour retrouver toutes ces informations, il y a le site reopen.eu. Donc reopen.eu qui répertorie toutes les situations. On clique voilà, sur le pays où on souhaite aller et là on nous indique voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer, si on souhaite rentrer dans le pays, quels sont les tests, quelles sont les précautions à avoir pour se rendre dans un magasin et ainsi de suite. Eh bien, voilà. Merci beaucoup Ardiana pour ce point sur l'actualité, surtout Covid, pour cette émission de novembre.
On se revoit au mois de décembre.
Au mois de décembre, on parlera
pour notre 9e émission.
Voilà. Et on fera un petit spécial Noël.
Tout à fait.
Super.
Ce sera une belle fête.
Bon, j'ai hâte. À très aussi. Bientôt alors.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction, Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche.